Regard sur le judaïsme aux sources de notre foi se propose d'explorer l'histoire du peuple juif afin de comprendre la foi qui l'anime. Avec moi, Catherine Mann, qui ne se pose pas en historienne ni même en exégète de la Torah ou du Talmud, mais en grande connaisseuse de la Bible, formatrice dans ce domaine, Catherine Mann est également sensibilisée au judaïsme par son histoire personnelle. Bonjour Catherine Mann.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
L'histoire du peuple juif qui nous est retracée à travers la Bible commence par un long voyage de Mésopotamie jusqu'au pays de Canaan, se poursuit par un autre voyage de Canaan jusqu'en Égypte, puis par un autre voyage de l'Égypte jusqu'à la Terre Promise, puis d'un autre voyage en exil jusqu'à Babylone. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le peuple élu est un peuple en marche, qui n'obéit qu'à la volonté de Dieu et pas à celle des hommes. Dans cette émission, nous retrouvons donc le peuple juif en Égypte, après être parti de Canaan, à cause d'une famine probablement, en tout cas avec l'histoire de Joseph que nous avons retracée dans notre précédente émission.
Oui, ce Joseph qui était devenu le bras droit du Pharaon, et qui effectivement a permis au peuple juifs ou aux Hébreux, comme on disait à l'époque, de s'installer en Égypte sous la protection de leurs frères.
Alors d'ailleurs, petite parenthèse, Hébreux, ça vient d'où ce terme-là ?
Il y a deux possibilités. D'abord, fils de Héber. Héber, c'est un des enfants de la succession de Noé, des enfants de Sem. Vous savez, Noé a eu trois fils, dont Sem, qui fait les Sémites, et Héber est un des fils de Sem. Et alors, une autre possibilité, c'est de voir Héber d'une racine qui viendrait d'un mot hébreu qui veut dire traverser, qui vient de l'au-delà de quelque chose, du fleuve, traverser, ou transgresser, certains disent transgresser, mais j'aime mieux traverser parce que ça fait...
Je rappelle que vous parlez hébreu, et on essaiera de revenir souvent aux sources des mots, parce que même des mots qu'on utilise aujourd'hui viennent parfois de là, et ils ont souvent une signification intéressante qui donne un autre éclairage, en tout cas sur le sens commun.
Le problème, c'est toujours de voir que la Bible a été écrite longtemps après, et qui parle parfois d'événements dont on a seulement des traces un peu légendaires par voie orale, ou des petits bouts de texte qu'on remet ensemble, et quand il y a des creux... Ben, c'est la tradition, après, qui donne les noms. Et elle donne les noms en fonction de quoi ? Eh bien, justement, en fonction de l'histoire qui doit découler de ce nom.
Ça a énormément de signification, évidemment, quoi.
Ben oui, le nom donne un peu la vocation de la personne. Alors, Héber, c'est celui qui traverse. Mais alors, il y a eu des problèmes un peu en archéologie, parce qu'on a retrouvé en Égypte des traces d'un groupe humain qui s'appellerait les Apirous. Et on dit, mais ça, c'est les Hébreux. Alors, il y a aussi des conflits sur cette signification, parce que Apirou, ça viendrait d'une autre racine. Et ça veut surtout dire la racaille, les bons à rien. Donc, tout ça, c'est possible aussi, parce que cette racaille en question, c'est le changement d'opinion du pharaon par rapport aux Hébreux. Tant que Joseph était en état de grâce avec un certain pharaon, tout allait bien. On pense que c'est parce que, c'est une interprétation, le pharaon qui faisait partie de la dynastie des Hyksos, qui aurait eu des liens avec les Sémites, parce que c'était un peu Hyksos, ça veut dire finalement ceux qui ont pris le pouvoir d'une manière violente par l'extérieur, des étrangers qui ont pris le pouvoir en Égypte, une dynastie qui a duré très longtemps, et qui donc protégeait, qui avait tendance à protéger les Sémites, puisqu'ils sont un peu famille. Mais après, les Hyksos ont été chassés d'Égypte, et Joseph a probablement été pris dans cette tourmente, enfin les Hébreux, et voilà, à ce moment-là, le pharaon se met à haïr les Hébreux, donc d'ici qu'il les traite de bons à rien, et les mettre justement non plus au travail mais en esclavage.
Et là on retrouve les sources de la Bible évidemment avec le peuple juif en esclavage en Égypte et l'apparition d'une autre grande figure évidemment judaïsme que tout le monde connaît, c'est Moïse.
Il suffit d'avoir vu les 10 commandements au cinéma pour se rappeler toute cette belle histoire du conflit intérieur de Moïse élevé par des Égyptiens. Et puis qui retrouve une espèce de familiarité avec ses racines et qui essaye de faire sortir le peuple. Donc quelle est la solution ? Il faut le ramener à ses, ces terres de Canaan.
Alors Moïse, lui aussi, a une révélation, vit une véritable expérience spirituelle également, à l'instar d'Abraham. Et lui, ça se...
Beaucoup plus, oui.
Peut-être, oui, de manière beaucoup plus forte, parce qu'il va véritablement se rebeller contre le pouvoir en place. Et alors cette révélation prend la forme du buisson ardent.
Oui, bah, c'est une manière à Dieu de se révéler directement à Moïse. Vous savez que dans tout le livre de l'Exode, on dit bien que Dieu, on ne peut pas le voir. Si on le voit en face, on meurt, on est brûlé par la présence de Dieu. Alors Dieu a toutes sortes de stratagèmes pour se faire voir de Moïse sans le tuer. Donc parfois on le voit de dos, il passe de dos. Parfois c'est juste sa main, la main de Dieu qui se met au-dessus de Moïse. Ici c'est le buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Donc c'est une forme d'apparition... Quelque part dans la Bible, on dit d'ailleurs que Moïse a vu Dieu face à face. Alors, pas complètement, mais voilà. Dans le judaïsme, on a quand même tendance à dire que le judaïsme, c'est Moïse, le fondateur. Bien qu'il y ait une source abrahamique, parce que le peuple commence réellement à exister avec Moïse, comme peuple, comme nation. Avant, avec Abraham, c'est un peuple, comme un clan qui se déplace, nomade, etc. Mais là, c'est vraiment une nation au sens moderne du mot, quoi. Qu'est-ce qu'une nation ? Ben, c'est déjà qu'il y a une législation et une langue et un Dieu unique.
Oui. Alors Moïse, suite à cette révélation, à cette expérience spirituelle, va faire sortir son peuple d'Égypte avec tous les épisodes qu'on connaît aussi, avec le long marchandage avec le pharaon, la première Pâque qui va...
qui veut dire aussi... traverser, enfin passer outre, donc il y a toujours une dynamique, un mouvement.
Dynamique, oui. Mais c'est un peuple en mouvement, ça c'est évident, ça. Et tout au cours de son histoire, ça restera un peuple en mouvement. Hein.
Un mouvement et en action.
Et en action, oui, un mouvement et en action.
Le verbe le plus employé dans la Bible, c'est agir.
Oui.
Faire.
Alors...
pas être. Être, c'est un mot qui est très très rare dans la Bible.
D'accord. Oui, c'est intéressant, hein, ça en dit beaucoup, ça en dit long. Hein. Alors, Moïse va faire traverser ce qu'on appelle improprement la mer Rouge. Ça, je l'ai appris en...
En
préparant l'émission.
C'est la mer des gens, c'est-à-dire c'est la racine un peu de... Mais moi, j'aime pas qu'on se focalise là-dessus, parce que la tendance est à dire, alors oui, bon, c'est un petit marécage, ils ont traversé sur des cailloux, et on perd toute la symbolique de ce qui est réellement écrit dans le texte. Et la foi, elle se construit sur le texte, sur ce qui est écrit. Non pas pour dire que c'est comme ça que ça s'est passé, pour dire c'est comme ça qu'il faut recevoir la tradition pour que ça soit utile, spirituellement parlant. Mmh. C'est qu'est-ce qu'on reçoit de l'histoire, comprendre ce que Dieu fait pour l'humanité, dans quelle relation il est avec l'humanité. Et effectivement, dire qu'il a traversé sur quelques cailloux dans des marécages, ça enlève tout.
Beaucoup de poésie, en tout cas.
Et qui reste, on voit bien cette image, elle est toujours reproduite dans le judaïsme aujourd'hui, des deux murs qui s'élèvent de chaque côté et qui sont le miracle. C'est l'intervention de Dieu qui est intéressante.
Mais ce qui est important à dire, c'est que les juifs eux-mêmes, parce que moi, cette information, je l'ai écrite par des juifs, ont tout à fait conscience de ces deux parties de la foi historique, et ils vont de l'un à l'autre. Hein.
Tout à fait.
Il ne faut pas présenter les juifs, la religion juive, comme des illuminés. Des ignorants, on est d'accord. Hein.
Il est important justement de se rendre compte qu'il y a d'un côté l'histoire, l'archéologie et toutes ces contestations et ces discussions, et alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé, et alors, la religion, c'est pas ça.
Exactement.
La religion, c'est l'alliance qui est faite entre un peuple, en tout cas, pour le moment, on est dans cette idée-là, et qu'est-ce que Dieu et l'homme en tirent comme relation. Et c'est encore une fois une affaire de dynamique. C'est l'homme en construction, l'homme en devenir, l'humanisation de l'humanité en fonction justement d'une certaine alliance qui commence avec Moïse, enfin qui commence avec Noé, puis Abraham, puis Moïse, et qui se continue dans toute la Bible jusqu'à effectivement le Messie. Mais
alors là où on en est, ce devenir est pas très joyeux pour le peuple hébreu, parce qu'il se retrouve dans le désert, aéré. pendant un certain nombre d'années. C'est pas très heureux, mais en même temps, c'est totalement fondateur de,
ah bah c'est ça,
de, c'est... De, du judaïsme, hein, parce que c'est là qu'apparaissent les fameux 10 commandements.
Et surtout, la chose est quand même assez curieuse, parce que quand vous voyez la taille du désert, c'est quand même pas si grand que ça pour qu'on tourne en rond pendant 40 ans. Donc, ils sont pas perdus dans le désert. Ils sont obligés de tourner en rond. Ils sont obligés.
Ils se cherchent. Ils se...
C'est alors tout.
Ou ils cherchent Dieu, oui.
Ouais, ou Dieu qui cherche.
Dieu les cherche. Oui.
C'est en tout cas c'est toute une pédagogie, la formation d'un peuple à l'obéissance à une loi. Et ça c'est.
Et à une loi divine évidemment, pas une loi humaine.
Oui, une loi révélée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit être appliquée aveuglément, hein, mais il y a une forme.
Oui, on
de
y reviendra
révélation.
Aussi, bien sûr. Y a
ça
aussi,
c'est le judaïsme moderne qui vient de nous expliquer, mais effectivement c'est obéissance à une loi qui est vraiment la fondation du monothéisme dont Abraham a eu l'inspiration, mais qui là devient vraiment une réalité, parce que le judaïsme, c'est d'abord une religion dont on dit éthique, c'est-à-dire comment transformer l'âme humaine pour en faire des hommes de justice et de droit, de respect du droit, et à partir de là... Il y a effectivement la paix, la miséricorde et tout. Mais la base, c'est le respect de la loi.
Alors justement, qu'est-ce que Moïse apporte de nouveau par rapport à Abraham ? Est-ce qu'il y a continuité ? Est-ce qu'il y a rupture ?
Moi, je pense qu'il y a continuité, parce que justement, il y a le bain égyptien entre les deux. Vous savez, ce lien dont on parlait à la première mission de tout le croissant fertile, les racines d'Abraham sont d'un côté... en Mésopotamie, mais il passe son temps en Égypte, et voilà. Et Israël est tendu entre ces deux civilisations, et Moïse, ben, il a une originalité, c'est effectivement de reprendre tout ça. Déjà, il reçoit la révélation du nom, ça change de nom.
Le fameux nom de Yahvé. C'est très compliqué, ça. Ouais,
on ne prononce pas Yahvé.
On ne prononce pas Yahvé.
Dans le judaïsme, jamais.
Jamais, oui.
Jamais,
ouais.
Jamais. Alors, ça s'appelle le tétragramme.
C'est ça.
Alors, on dit Hachem, le nom, ou Adonai, le Seigneur.
Et puis, il y a une liste assez importante, après, d'appellations pour Dieu.
C'est plutôt avant qu'il y avait les appellations, mais enfin, le miséricordieux en tout cas. Hein.
C'est vrai qu'on pourrait s'arrêter un petit peu là-dessus, parce que ces lettres sont aussi, ces lettres, donc...
Le tétragramme,
font véritablement partie de la mystique juive un peu plus tard, et puis elles servent de support à la méditation,
Seulement, effectivement, on verra après, le nom ne peut être prononcé que par le grand prêtre après dans le temple, mais là, par Moïse, probablement, le nom, c'est quatre... consonnes, donc, qui sont justement tirées du verbe être. L'être est réservé à Dieu. Ça devient une explication, il donne son nom et puis le tétragramme, et après il dit « Ayez, Asher, ayez, je suis ». On n'a jamais réussi à traduire « je serai ce que je serai » ou « je suis ce que vous voudrez que je sois ». Enfin, des traductions du « Ayez, Asher, ayez », je crois qu'il y en a une bonne douzaine. Et c'est pas fini, hein, donc on réfléchit toujours. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que le nom mal appelé Yahvé, c'est les consonnes du verbe être, a une forme qui n'est ni le présent, ni le passé, ni le futur, mais les trois en même temps.
Ah oui.
C'est ce qui a donné dans la liturgie chrétienne, celui qui est, qui était et qui vient... Ben, parce que c'est l'imprononçable. Comment voulez-vous être l'être méta-historique, méta-temporel ? Voilà, on ne sait pas. Donc, Yahvé, c'est insultant, à mon avis, hein, parce que c'est souvent...
Je ne dirai plus.
Non, mais c'est le pape Benoît XVI qui s'était vraiment un peu élevé contre cette pratique de l'appeler comme si on sifflait son chien en l'appelant Médor, quoi. On ne peut pas traiter Dieu en l'appelant par son prénom, sauf si on a cette espèce de mépris qu'a donné l'archéologie, de dire « oui, bah, c'est créé par des humains, il y a eu, je dis il y a eu, mais effectivement, un dieu local qui s'appelait Yahou, et donc on peut dire Yahvé parce que ça vient d'Yahou, mais c'est très très loin de la conception du judaïsme. » Alors là, c'est...
Oui.
Oui, ou alors le judaïsme scientifique, on en parlera un jour, qui a du mal justement à garder la foi.
Alors là, on est tout là-haut, là, et puis on va redescendre, façon de parler, en tout cas avec les 10 commandements. C'est-à-dire que les 10 commandements, on a des choses extrêmement concrètes, là, pour le coup.
Oui.
Voire universelles.
Ah ben on l'a vu avec totalement Abraham, le but, c'est justement d'être universel. Toute la vocation du peuple élu, c'est de donner un chemin universel, une aide pour le... Alors, idéalement, un modèle. Alors le problème, c'est effectivement donner un peuple un modèle. Il faudrait qu'il soit capable d'être le modèle. Mais au moins, il est porteur de la loi de Dieu qui, effectivement, est un chemin d'humanisation. Les 10 commandements, ben oui, c'est le minimum syndical de l'obéissance à Dieu.
Et d'ailleurs, assez vite, le peuple juif s'est posé la question. Alors, qu'est-ce qui fait notre spécificité à nous par rapport au reste du monde? Du coup, d'autres lois sont arrivées.
Après, il n'y a pas que le livre de l'Exode, hein, y a le livre des Nombres et puis le Lévitique. Et vous avez ce qui est devenu 613 commandements.
Pour le coup, spécifique
au
judaïsme, on est d'accord.
Ils en ont beaucoup plus, parce que si on veut être un modèle pour l'humanité, il faut être parfait. C'est déjà une chose qui est demandée à Abraham, marche en ma présence et sois parfait. C'était déjà Abraham, donc cette idée de perfection, elle est là depuis Abraham. Et comment être parfait? Ben voilà, essayer de sanctifier tous les actes du quotidien à travers des observances ou des abstinences qui rythment toute la journée et même les nuits. Tout est cadré pour qu'on obéisse à Dieu en toutes circonstances.
Le peuple juif rentre en terre promise et va débuter une période, la période des rois. Quels sont
pas
les...
tout de suite, hein, parce que d'abord il y a l'entrée en terre promise, c'est pas fait sans conflit. Hein,
bien sûr, oui. Tout ça est bien sûr...
Mais enfin, c'est la distribution...
Il faut livrer bataille, quoi, à chaque fois.
C'est surtout... l'archéologie vous dit aussi qu'il n'y a pas eu vraiment de bataille, mais enfin, une invasion même pacifique, ça se fait pas sans problème, puisqu'il y avait des habitants, hein, donc s'imposer dans... Et surtout la répartition des 12 tribus. Donc cette espèce de partage de la terre par clan, les 12 fils, les 12 tribus d'Israël, certains vont rester un peu en dehors. Il y a beaucoup de tirages au sort aussi pour savoir quand on ne sait pas qui aura les belles terres. Mais entre l'entrée en terre promise et la période des rois, vous avez toute la période des juges. Elle est quand même tout aussi...
Alors qu'est-ce que c'est que cette période des juges?
Ben, c'est une période où on s'appuie finalement sur des... Comment est-ce qu'on pourrait dire? Des sages du peuple. Le problème, c'est qu'on n'a pas non plus une certitude d'historicité avec la période des juges. C'est, encore une fois, des figures exemplaires. Mais ça se passe un peu comme ça. Il faut voir, dans la démocratie aujourd'hui, ça se passe un peu comme ça. On élit qui au gouvernement? Ben, des figures exemplaires, des gens un peu... Donc il semble qu'il y aurait eu une période où on se choisissait des gens plus près de Dieu... Et à qui on venait demander conseil, tous les problèmes, y compris les problèmes de guerre. D'ailleurs, ça devient, dans certains cas, des chefs de guerre, et même des femmes. Il y avait des femmes qui intervenaient, qui guidaient les guerres contre les ennemis, etc.
Mais il y avait cette idée, qui est apparue assez vite quand même, qu'il fallait quelque part unifier tous ces peuples, toutes ces tribus.
La période des juges a montré la complication.
Voilà, ça devenait compliqué, ouais.
Et la Bible dit, à cette époque-là, chacun faisait ce qui lui plaisait. Ce qui veut dire, c'est un sac de nœuds total, quoi, voilà. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à mettre d'ordre.
Et même au niveau spirituel, j'imagine.
Les guerres se mélangent avec les dieux des ennemis, après on fait la paix, après on se marie avec les femmes des ennemis, on fait du commerce. Ouais. Et avoir le monothéisme idéal proposé par Moïse qui fait la cohésion d'un peuple, ben ça tient pas. Ça se délite parce que vraiment chacun fait ce qui lui plaît.
Mais c'est vrai qu'il y a eu cette expérience. Avant la période des rois, il y a eu quand même cette expérience.
Le livre des juges, c'est finalement intéressant parce que c'est pas historique, mais il y a quand même 12 juges. Et 12, c'est un chiffre symbolique pour les 12 tribus. Alors, vous le connaissez, les juges, au moins, vous connaissez l'histoire de Samson. Hein, c'est le plus connu des juges, voilà, Samson contre les Philistins. Donc tout ça, effectivement, le peuple lui-même va se révolter contre son propre désordre et va dire comment ça marche ailleurs. Comment ils font dans les autres pays? Et c'est un déchirement total, quoi, parce qu'on arrive... Avant le livre des rois, vous avez le livre de Samuel, quoi, le prophète qui est à la fois juge, il est le dernier des juges, si on peut dire, et le premier des prophètes. et à qui on vient dire, nous, on n'en peut plus de ce souk, on veut être comme les autres nations et avoir un roi. Et la déchirure, elle est terrible pour Samuel qui dit, on ne vous a justement pas donné de roi parce que c'est Dieu votre roi. Obéissez à la loi, c'est quand même pas difficile.
C'est-à-dire qu'en obéissant à la loi, ils étaient censés pouvoir s'auto-gouverner presque.
Ben, bien entendu.
C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, si chaque homme suit la loi, il n'a pas de souci à se faire pour tout le reste.
Il n'y a pas besoin d'autorité extérieure si vous êtes droit intérieurement.
C'est intéressant parce qu'on a le sentiment que justement le christianisme a apporté l'individualisme au sein d'un peuple juif très uni, mais déjà...
Mais en pratique,
ce qui a déjà été écrit. Quoi. Ouais,
mais ouais, oui, ouais, ouais. Jésus n'a jamais prétendu être autre chose qu'un héritier du judaïsme. Simplement, il dénonce la non-mise en pratique, c'est toujours le problème.
Donc il y a déjà à cette époque un sentiment de responsabilité individuelle par rapport à son destin et par rapport à...
Oui, non, elle y est pas, parce que justement...
Elle voudrait y être, mais ça ne marche pas, quoi. Voilà.
Donc, à son corps défendant, Samuel va faire l'institution du premier roi, Shaul, voilà. L'onction... Alors, encore une fois, tout en les mettant en garde contre les dégâts que ça va amener, quoi, parce que effectivement, ils seront comme les autres peuples. La même déchirure se passe aujourd'hui en Israël, avec les factions différentes... et ceux qui veulent être comme les autres nations. Et en face, vous avez les juifs orthodoxes qui s'arrachent les cheveux parce qu'on n'est pas là pour être comme les autres nations, tuer comme les autres, avoir des bombes, des avions. Non, nous, notre force, c'est Dieu et le Messie qui doit venir.
Ouais, c'est un peu déprimant, ça. Donc, cette impuissance...
Tout ce que nous disons là, c'est
très actuel.
Ça n'a pas vraiment changé. Le problème, il reste toujours le même. Il se déplace.
Alors avançons avec ces rois qui en effet il y aura des bons, il y aura des mauvais, il y en a qui ont évidemment marqué l'histoire. Il y a eu Saul, il y a eu David, il y a eu Salomon. Alors ce qui est intéressant, c'est que le premier Saul et David, ce sont des rois qui sont la Bible en tout cas les prend parmi les petits, des bergers, des gens sans importance. C'est ceux qui sont élevés à la royauté. On ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec le Christ, quand même.
Mais parce qu'il faut surtout penser que la Bible nous parle de Dieu et nous explique de quel Dieu il s'agit. C'est un Dieu des petits, des peuples nomades, de tout un chacun.
En tout cas, qui se moque des dynasties, des traditions.
C'est pas un Dieu des puissants, c'est pas le Dieu de l'argent, c'est pas le Dieu, c'est le Dieu de l'humain au plus simple, de l'humanité. Parce que justement, le plus simple, c'est peut-être ce qu'il y a de plus vrai. Et que tout le reste, le pouvoir, la domination, les guerres, la violence, tout ça, ça vient justement d'autre chose que de...
Une espèce de méritocratie aussi, peut-être, non? C'est-à-dire celui qui est le plus méritant, qui pas le plus riche, mais le plus méritant, finalement, qui va...
Ça se discute.
Ça se discute, c'est compliqué.
C'est très compliqué.
D'accord.
Parce que là, on entre vraiment dans des complications qui posent question même dans le christianisme.
Quel roi va-t-on citer? On va citer David, forcément. Qui va marquer énormément.
Bien entendu, c'est presque le mythe, d'ailleurs, du bon roi, puisque l'archéologie, là aussi, va mettre tout ça un peu en doute. Mais c'est important d'avoir cette puissance. Et Salomon, son fils, va déjà développer de la puissance, et surtout une grande puissance commerciale internationale, et ça va déjà tourner vinaigre, comme on dit.
Alors, une petite parenthèse, David, il vient du royaume de Juda.
Oui, parce qu'on a vu que l'entrée en terre promise, c'est le partage entre les 12 tribus. Et il y a eu vraiment déjà une priorité à David, mais elle viendra à la mort de Salomon.
D'accord. Et Judas, ça a donné le judaïsme.
Oui, c'est ça.
D'où vient le judaïsme?
Le nom
de la tribu de Juda.
Mais à la mort de Salomon, effectivement... comme Salomon a amené, il avait 700 femmes, dont les trois quarts des étrangères, entre autres une égyptienne, enfin bon. Bon, le monothéisme avait déjà du plomb dans l'aile avec Salomon. Et il y a eu, à sa mort, eh bien, un schisme, une rupture, entre les purs, disons, qui restaient dans le sud, autour de Juda et Jérusalem, et 10 tribus qui vont prendre le nord et qui vont faire sécession. Et donc, déjà après les deux premiers rois, le royaume est divisé, nord et sud. C'est déjà une belle source de conflits et pas du tout les mêmes traditions.
Et, ouais. Et cette division va être suivie par, par l'effondrement de tout le royaume et l'invasion par Babylone d'un côté et par les Assyriens de l'autre. Mais ça,
d'abord,
nous le verrons dans une prochaine émission, Catherine Mann, parce que notre émission touche à sa fin. Pour préparer cette émission, Catherine Mann, eh bien, vous êtes appuyé sur de nombreux ouvrages. Vous allez nous en parler d'un plus particulièrement.
Ah ben, un petit livre que je recommande à tous parce qu'il est très simple. C'est une espèce de bande dessinée qui s'appelle Le judaïsme pour débutants de Charles Zlackman aux éditions La Découverte et qui résume tout le judaïsme avec des dessins absolument délicieux.
Qui est très chouette, je confirme.
C'est toujours intéressant d'avoir dans sa bibliothèque un atlas de la Bible parce que ça vous résume un peu géographiquement où sont tous les peuples, comment ça se déplace, comment. Et puis je voudrais aussi citer pour les chrétiens catholiques ce livre de la Commission biblique pontificale qui s'appelle Inspiration et vérité de l'Écriture sainte. Voilà, comment est-ce que cette Bible peut nous apporter quelque chose? Le sous-titre est « La parole qui vient de Dieu et parle de Dieu pour sauver le monde » aux éditions du Cerf.
Merci beaucoup.
Merci à vous, à bientôt.